Accès libre avec Luc Fortin.
Bon, ça aura pris quelques semaines avant que ma tricherie se concrétise. J'avais ici publiquement annoncé, M. Legault, que oui, si je pouvais, je me ferais passer le ciseau et ce fut fait. Samedi, sur une pelouse dans une cour arrière par un beau-frère, coiffeur à la retraite, et que ça fait du bien à l'âme. Mais Jean-Sébastien, je suis déçu. C'est pas fait, toi.
Non, moi je continue.
Écoute,
encore.
Je regarde à gauche.
Je veux encourager mon salon de coiffure, donc quand je vais pouvoir et quand ils auront de la place, j'irai.
Je me disais que j'essaierais peut-être de faire ça. J'ai même écrit à ma coiffeuse la semaine passée parce que M. Drainville avait annoncé le 8 juin pour Montréal et les environs. Alors moi, je pensais, bon... Mais là, quand c'était même plus question du 8 juin et que samedi, l'occasion se présentait... Mais que ça fait du bien à l'âme, autant de voir des gens. J'espère que pour vous aussi, vous avez pu, cette fin de semaine, trouver une façon de faire... Ah. Aujourd'hui, il sera question d'adoption... Il sera question de handicap intellectuel et de respirateur automatique. De loisirs, camp de vacances, de Nancy Morin et de philanthropie. Oui, c'est d'ailleurs comme ça qu'on va commencer aujourd'hui en philanthropie, puisque selon Imagine Canada, qui est un lobby dans le domaine caritatif, le ralentissement économique pourrait causer jusqu'à, disons, entre 9 et 15 milliards de pertes pour les organismes qui dépendent de la générosité de monsieur, madame, tout le monde. Et pour en parler, on prend le temps d'appeler Daniel H. Lantaigne, qui lui est consultant chez BNP Performance Philanthropique. Il a été également président désigné au Québec de l'Association des professionnels en philanthropie. Qui vous a désigné, Daniel, comme président?
Ce sont les membres, à vrai dire, c'est-à-dire qu'il y a à peu près un peu plus de 300 membres dans la province du Québec qui se réunissent dans cette association-là, justement, notamment pour aborder l'impact de la COVID-19, mais en tout temps pour parler d'éthique, de bonnes pratiques de collecte de fonds, de comment on peut finalement demeurer des bons professionnels dans ce secteur-là. Et là, c'est eux qui m'ont élu, acclamé, ouais, président désigné. Voilà.
Bon, on a beaucoup d'articles qui traitent justement de la précarité qui pourrait subvenir à cause de la situation actuelle, ce qui fait que, bon, j'y reviendrai peut-être si on a le temps, mais j'avais envie de prendre l'occasion pour parler, macro. La crise actuelle va-t-elle forcer l'industrie de la philanthropie à se repositionner ou, au contraire, attendons, laissons passer la tempête et soyons actifs après coup? Qu'est-ce qui est suggéré dans les cartons, là? Quoi pensez-vous?
Ben, tout à fait. Il faut se réinventer. Il faut quitter le mode réactif dans lequel les organismes sont tombés rapidement. Et ça, vraiment, chapeau bas aux organismes qui se sont revirés de bord très vite. Mais il faut revoir comment on va faire l'entièreté de notre collecte de fonds, parce que la collecte de fonds se fait sur différents programmes ou différents aspects. Évidemment, il y a la lettre qui est envoyée par la poste, souvent la sollicitation téléphonique, des campagnes majeures, des programmes de dons majeurs, même des dons planifiés. Puis, il y a de l'événementiel. On comprend que l'événementiel, en ce moment, c'est pas la panacée, hein, et ça sera certainement pas une source intéressante de revenus financiers pour cette année. On en voit qui se sont réinventés. Mmh. Hein. On a vu le relais pour la vie qui est devenu comme un relais virtuel, le roulon pour l'affaire des jeux où les gens allaient sur des vélos. Ça devient un peu impossible de se regrouper sous un grand chapiteau. C'est devenu un party de diabète de type 1, des psychosites, des courses virtuelles. Bref, tout le monde en ce moment est en mode solution et je voudrais que depuis la mi-mars, les gens sont tombés en mode solution rapidement parce que, dépendamment du type de don, vous savez, demander un don de 50$, c'est une chose. On peut faire une lettre, un téléphone et on peut le faire en ligne. Demander un don de 500 000$ à, disons, une entreprise ou une fondation privée, ça se fait pas par un texto, ça se fait pas par un simple courriel, ça se fait souvent face à face, en personne, une discussion qui est basée sur une relation qui s'est développée au fil du temps. Et là, le face à face, il est rendu franchement très difficile. À 2 mètres de distance, éventuellement, lorsqu'on sera plus confortable, tout le monde de le faire, ça sera une chose, mais je dirais, en ce moment, on doit se reposer chacune de ces questions-là. Comment on les fait? Vous savez, la semaine passée, au cabinet, il y a quelqu'un qui a fait une sollicitation d'un don majeur avec une conférence Zoom. Ça s'est bien passé. C'était une première.
Mais c'est parce que la personne était déjà convaincue. Si la personne était prête à s'asseoir pour assister à la conférence, c'est qu'elle était déjà vendue. Mais Moi, je sais que si on me demandait aujourd'hui, Luc, peux-tu m'aider? J'ai tellement la tête ailleurs que je n'ai plus ce réflexe-là. J'avoue, j'ai même... Il y a un don mensuel que je donne automatiquement et j'ai même pensé l'annuler à cause de ma précarité. Là, j'essaie de me dire, ben, Fortin, commande, là. Mais je dois pas être le seul.
Non, puis vous avez tout à fait raison. C'est des questions qui se doivent de se poser en ce moment. Et vraiment, on dit aux organismes, revenez à la base. La base, c'est quoi? C'est qu'on fait de la relation humaine. Hein? Évidemment, on demande humainement à quelqu'un de donner quelque chose en fonction de ses capacités financières, mais on va souvent aller aider des populations plus vulnérables. Mmh. Et en ce sens-là, on dit, ben, reconnectez plus que jamais avec vos donateurs. Appelez-les, donnez-leur de vos nouvelles, demandez-leur comment ils vivent ça. Et là, éventuellement, plus tard, on pourra parler d'une sollicitation d'un don d'une certaine ampleur. Mais pour l'instant, il faut reconnecter plus que jamais avec les donateurs. Il faut démontrer qu'avant la COVID, la cause était pertinente, la cause répondait à un besoin urgent pour une clientèle ou une population. Mais que malgré la COVID, ça continue d'être encore le cas. Mais il faut aussi, comme vous l'avez bien mentionné, ajouter une dose de contexte. Dire, ben, écoutez, on comprend qu'évidemment, votre situation financière, elle ne le permet peut-être pas en ce moment. Allez-y à la hauteur de votre capacité. Si votre capacité en ce moment, ce n'est pas de don, c'est correct. On se reparlera plus tard, mais maintenir ce lien de communication-là, parce que, évidemment, un organisme qui ne maintient pas ce lien-là, ben, il va voir son donateur peut-être dirigé vers une autre cause éventuellement. Oublier cette cause-là parce qu'il n'y aura plus ce canal-là. Donc, c'est très important de mettre tout ça dans le contexte.
En même temps, Daniel, une des raisons pourquoi moi j'ai pensé arrêter, c'est que je reçois de plus en plus de courriels de la part de cet organisme-là et là, ça commence à m'achaler. Est-ce que, justement, il n'y a pas des organismes qui devraient peut-être, je comprends les besoins, mais ralentir pour ne pas tout perdre?
Oui. je ris, puis c'est pas tout à fait drôle, mais effectivement, autant on dit qu'il faut maintenir la communication, qu'il y en a qui sont peut-être tombés dans l'excès.
Trouver un équilibre.
Parce qu'effectivement, si on n'a rien à dire, l'adage dit de dire rien. Donc, il faut demeurer très pertinent, il faut démontrer justement, puis réaliser au bout de certaines non-réponses, par exemple, des donateurs, ben, faut peut-être ralentir la cadence, mais vous avez tout à fait raison. Autant il faut informer, il faut mettre dans le contexte, qu'à un moment donné, il ne faut pas non plus brûler nos donateurs, j'aime pas l'expression, mais dire qu'on les a finalement un peu trop sursollicités, un peu trop achalés. Même principe que la sollicitation postale, quand vous recevez peut-être des fois 10 lettres d'une même fondation dans une année, toujours bien que vous aimiez la cause. Ça se peut qu'au bout de 10 lettres, vous commencez à trouver que l'effort est peut-être un peu grand pour ce que vous allez leur donner.
Ben, surtout que c'est parce que, en tout cas, dans mon cas, et je suis certain que je ne suis pas le seul, parce qu'on est convaincant dans les lettres, là, on nous montre c'est de type santé publique, l'organisme que je soutiens. Donc, évidemment qu'il y a plein de bonnes raisons de donner par les temps qui courent, mais moi-même, je m'arrache les cheveux, confiné dans ma maison, non-voyant, avoir de la difficulté à trouver quelqu'un pour m'aider à mon épicerie et tout et tout. Donc, tu sais, voilà. Est-ce qu'on a une idée, parce qu'on parlait tantôt de lettres, de dons automatiques, en fait, de plein de manières de donner, et il y a les événements que l'on organise. A-t-on idée du pourcentage qu'on va chercher dans les événements et du pourcentage des autres types de... on a parlé de 9 à 15 millions, là, mais de milliards, mais...
Yeah. Bien, les événements, dépendamment des organisations, je vais vous dire, il y en a qui étaient, et puis on a déjà sonné l'alarme il y a quelques années, puis on le fait encore aujourd'hui plus que jamais, dire il ne faut pas être trop dépendant aux événements. Et là, on réalise que les fondations qui avaient trop de dépendance, qui avaient peut-être un 30 jusqu'à un 50 % de financement qui venait des événements, bien évidemment, leur santé est à péril, ils sont en situation de précarité. Et on le voit, on a fait une étude, il y a uniquement 20 % des organismes qui sont en ce moment capables de maintenir l'entièreté de leurs services selon les données qu'on a eues chez DNP. 90 % sont extrêmement affectés et c'est principalement ceux qui reposaient beaucoup de leurs attentes dans les événements. On le sait, les événements, bon, oui, ça reste nécessaire, ça permet de faire du réseautage pour les donateurs, ça permet de vivre une expérience. C'est aussi une charge financière importante. Le ratio des événements est souvent élevé. C'est correct de le faire parce que ça permet un certain rayonnement. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et ça a l'air très simple, mais ça reste que c'est un exercice qui demande du temps de revenir à la base, comme je disais, de reconnecter avec ses donateurs, de savoir pourquoi ils donnent, qu'est-ce qui les motive envers l'organisation et d'adapter finalement son argumentaire en fonction de ça.
Bien, d'où l'importance, j'imagine, au risque de faire des événements édulcorés, d'essayer quand même de faire des événements, que ce soit en ligne ou pour montrer qu'on est proactif, pour montrer que la cause est importante. Parce que si tu montres à ton donateur pendant 2 ans que tu as pu fermer boutique, ben finalement, le donateur va se dire, bon, OK, finalement, c'était pas si important que ça, là. Alors, on a comme pas le choix.
Tout à fait. Un organisme qui donne l'impression qu'il est mort ou qu'il est sous respirateur artificiel, le donateur va se poser la question de ben, finalement, hier, c'était la cause la plus importante. Tout à coup, il y a la COVID. Ça semble plus être une cause importante. Pourquoi je continuerais de donner à cet organisme-là? Ouais, ouais. Donc, ça se fait, bon, oui, par la communication. Ça se fait par des événements, vous dites, justement, là, des gens qui se tournent vers le virtuel, tout ça. On avait vu au début du mois de mars, tout le monde reportait son événement en automne. On disait, mon Dieu, l'automne va être chargé comme c'est pas possible.
C'est vrai.
Là, évidemment, tout le monde est arrivé dans une résidence et ben, à l'automne, ça sera peut-être pas possible, probablement pas en termes de nombre de santé publique. Et puis, deuxièmement, le donateur ou le participant à un événement, selon où il est dans sa posture mentale face à la COVID, n'aura peut-être pas le goût de s'en aller dans un événement, toujours même qu'il y a plein de règles sanitaires, d'aller se coller sur des donateurs qu'il ne connaît pas. Chacun réagit à la COVID de façon personnelle. Donc, l'automne semble de moins en moins probable. Et je vous dirais, d'ici la fin de l'année, en événement philanthropie en personne, j'en vois pas vraiment sur le radar. Et on voit tous les organismes qui essaient de trouver des solutions virtuelles. Tant mieux, il va vraiment falloir se démarquer. Ça va prendre un Ice Bucket Challenge de l'événement virtuel. Parce que là, tout le monde fait des événements à la maison et c'est parfait. Tout le monde est en mode survie. Alors, chapeau à la fondation ou à l'organisme qui trouvera le moyen de tirer son épingle du jeu là-dedans.
Il y a des organismes donc qui ont pu réduire leur personnel, leur cahier de charges, mais d'autres, je pense entre autres à la fondation Mira, qui doivent continuer de faire vivre les chiens, que ce soit le chenil, la pouponnière, les vétérinaires, les entraîneurs, la bouffe. Qu'est-ce qu'on fait pour ces organismes qui n'ont pas le choix, qui ne sont pas soutenus par le gouvernement, difficile de réduire dans les dépenses?
Oui, effectivement, Mira, c'est un bon exemple. Là. Et puis, il y en a plein d'autres, là, la situation des personnes itinérantes, les banques alimentaires qui ont quand même eu beaucoup d'éclairage sur leur situation. Par chance, le secteur communautaire, avec l'aide des différents gouvernements, a créé un fonds d'urgence. Donc, je pense beaucoup à la Fondation du Grand Montréal, entre autres, qui est un des organisateurs, qui est un des partenaires pour aider ces fondations-là qui ont des projets d'urgence en ce moment pour maintenir leur financement. Alors, c'est nécessaire et par chance que ça existe pour pallier à tout ça. On se tourne un peu, on s'est toujours tourné du côté des dons des entreprises. Évidemment, il faut bien regarder quel secteur est touché, quel est moins touché. Parce qu'évidemment, bon, eux aussi vivent avec les aléas de leur budget en termes de dons et commandites. Donc, il y a ces avenues-là vers lesquelles on se tourne. Mais effectivement, on est tous dans le même panier. Puis, à un certain point, il y a une certaine charge financière que globalement, on peut tous prendre. Si l'État donne un certain montant aux OBNL, cet argent-là, il va devoir être retrouvé quelque part. Donc, il y a une capacité financière limite, mais il y a beaucoup de moyens. Vous parlez d'Imagine Canada. Il suggère évidemment plein de mesures que le gouvernement pourrait adopter. Ouais. Que ce reste de mettre un programme temporaire de bonification de crédit d'impôt. On l'a vu chez les clients de BNP. 90 sont favorables. Donc, il y a plein de solutions. Après ça, bon, évidemment, il faut les voir, mais c'est pas petit comme secteur. C'est quand même 8% du PIB, là, le secteur des organismes de bienfaisance.
Oui, c'est pas énorme, mais en même temps, c'est pour plein de gens, c'est essentiel. Daniel H. Lantaigne, consultant chez BNP Performance Philanthropique, et je disais, bon, président désigné au Québec de l'Association des professionnels en philanthropie. Merci beaucoup.
Merci, M. Fortin. Bonne journée. Show them otherwise.
C'est l'exemple parfait de prendre une toune de 2 minutes et d'en faire quelque chose de 4 minutes 20 secondes. Dominique Tremblay, salutations, comment vas-tu?
Très bien, toi, Luc.
Ouais, merci beaucoup. Écoute, la dernière fois que l'on s'est parlé, le 11 mai dernier, la nouvelle n'était pas encore rendue publique, à savoir le décès de Nancy Morin. Nancy qui nous a quittés le 8, mais la nouvelle est sortie pour l'Association sportive des aveugles du Québec le 16 et les médias en ont parlé le 19. Ce serait inopportun de ne pas revenir sur l'apport de Nancy, particulièrement en goalball canadien féminin.
Oui, ça a probablement été une des plus grandes joueuses de goalball que le Canada a connue, surtout dans les années 2000, entre 2000 et 2016. Elle a participé à 5 Jeux paralympiques, ce qui n'est pas rien. Elle a remporté 2 médailles d'or à Sydney et à Athènes, Sydney en 2000 et Athènes en 2004, à Sydney avec Nathalie Chartrand, entre autres. Nancy Morin a marqué le but gagnant dans les dernières secondes du match. Elle a participé à 33 compétitions internationales tout au cours de sa carrière. Elle a participé à 18 fois 18 médailles finales pour une médaille d'or et 8 fois pour une finale en médaille de bronze. Elle aura pris sa retraite de la compétition internationale en 2018 lors des championnats du monde qui servaient de qualification pour les Jeux paralympiques de Tokyo. Le Canada a terminé 4e lors de cette compétition-là. Le Canada a assuré sa qualification 1 an plus tard aux Jeux de Lima au Pérou. Mais tout au long de sa carrière, là, elle a été une force dominante.
Oui, c'est d'ailleurs, ça. Nancy qui avait un apport offensif, je veux dire, essentiel pour la formation canadienne.
C'est ça, là, de 2000 jusqu'en probablement 2012, elle a été à plusieurs reprises la meilleure buteuse, compteuse des tournois de goalball à laquelle elle participait. C'était vraiment quelque chose à voir jouer. Là.
Ouais, on l'appelait le bras canadien chez les intimes. T'as parlé entre autres à une qui l'a entraîné longtemps, t'as parlé à certaines qui l'ont côtoyé sur le court.
Oui, bien, c'est ça. Les hommages sont venus de partout pour souligner le décès de Nancy, soit, tant sur la scène internationale que sur la scène canadienne. J'ai parlé avec Nathalie Séguin, qui est maintenant l'entraîneur de l'équipe masculine. Elle a connu Nancy pendant 10 ans. C'était une des premières athlètes que Nathalie a entraînées au Québec. Ça l'a formé Nathalie au goalball parce qu'au moment où elle est entrée dans le gymnase, Nathalie Séguin ne connaissait pas grand-chose de ce sport-là. Mais ensemble, ils ont amené le sport au Québec un peu plus loin. Puis Nancy a toujours été là pour aider Nathalie pour se développer en tant qu'entraîneur. Puis ça a été aussi un grand défi pour Nathalie parce que Nancy n'était pas quelqu'un qui était quand même quelqu'un de très renfermé, ouais. qui parlait pas beaucoup, qui montrait ce qu'il fallait faire par l'exemple. C'était pas quelqu'un qui était vocal, donc. D'abattre la carapace de Nancy n'était pas très facile. Donc, Nathalie a dû apprivoiser Nancy. Et comme ça, ça lui a permis de devenir une meilleure entraîneur.
Ouais. J'étais content quand même de voir que les médias ont repris cette nouvelle-là parce que, bon, bien souvent, on fait des hommages aux athlètes non handicapés. Et lorsque vient le temps de le faire... après un décès, et j'étais content de voir que quand même Nancy n'était pas passée sous silence. Revenons sur le sujet qu'on n'a pas pu terminer la dernière fois, à savoir comment, bon, là on est rendu à les camps, le loisir, comment tout ça chez la population en situation de handicap doit être redessiné, repensé pour permettre à monsieur, madame, surtout dans ce cas-ci, les enfants, de s'amuser. On a eu une bonne nouvelle, à savoir les camps de jour vont redémarrer le 22 juin, mais bonne nouvelle pour certains et statu quo pour d'autres.
Ben c'est que oui, les camps de jour vont ouvrir à partir du 22 juin, comme tu viens de mentionner. C'est une bonne nouvelle comme telle, mais ça reste encore très flou parce que il doit avoir des procédures de distanciation sociale, plus de moniteurs. Donc, pour des gens, pour des personnes handicapées qui ont besoin d'aide un pour un en termes de participation dans les camps de jour, ça soulève beaucoup de questions. Ouais. Et encore une fois, ces questions-là, à 4 semaines de l'ouverture des camps de jour, n'ont pas trouvé réponse. Et en plus, le financement pour le programme PALIM, donc, n'a pas été encore remis aux organismes. Donc, ça laisse beaucoup d'incertitudes. Puis il y a plusieurs organismes spécialisés qui ont annoncé leur fermeture des services. Puis il y en a d'autres, des services réguliers, qui sont un peu incertains dans la façon dont ça va se dérouler. Du moins, c'est ce que Elsa Lavigne, la directrice générale d'Altergo, m'a dit. En ce qui a trait à Marie-Ève Lépine, la directrice générale de l'ARRPH des Laurentides, aussi là, ils sont en situation de trouver des solutions. Là-bas aussi, on a aussi des problèmes. Certaines commissions scolaires ont décidé de ne pas donner accès à certains locaux, donc pour des questions d'assurance. Donc, ils essaient de mettre un groupe de travail en place avec le CIUS, avec d'autres organismes ensemble pour essayer de trouver des solutions pour que les parents et les enfants puissent passer un été plus ou moins normal. Ouais. D'un bon côté, par exemple, les camps des camps de vacances, eux, pour les personnes handicapées, vont quand même pourraient avoir lieu, mais encore une fois, les détails ne sont pas donnés. Ouais. Mais ça peut être une bonne nouvelle.
Ce que Christiane me disait avant d'entrer en onde, c'est que à la fois Massawippi et le camp Papillon n'ouvriront pas cet été. Alors, c'est sûr que ça influence et ça impacte beaucoup de monde, autant les campeurs que ces jeunes adultes qui apprennent, qui se font former, si on veut, dans la situation de handicap. Plusieurs vont apprendre en travaillant au Camp Papillon pour ensuite devenir des éducateurs spécialisés ou travailler dans ce domaine-là. Alors, ça a un impact certain, là.
Juste pour un exemple très personnel, pendant mon enfance, j'ai été pendant 10 ans au Camp Papillon. Puis pour moi, c'était le temps spécial de l'année. Mm-hmm. Puis c'était probablement les vacances préférées de ma mère, là, d'avoir 2 ou 3 semaines de vacances de moi. C'était extraordinaire. Ouais. Fait que de voir que ces camps-là ne seront pas disponibles. Mais il y a certains organismes ou camps qui vont offrir des aides de garderie au lieu d'offrir des camps de vacances. Donc, ça va quand même permettre de donner un petit peu de répit, mais on ne parle pas des situations idéales. Là.
Non, ça c'est certain. Le plus grand besoin, l'espace ou l'argent? As-tu une idée?
Probablement des ressources.
Okay.
Parce qu'on a besoin, ça peut être des ressources financières, mais des ressources humaines aussi.
Ouais.
Parce que on a besoin de plus d'animateurs, de conseillers, d'accompagnateurs, parce que vu qu'on a besoin de moins des groupes plus petits, puis pour être capable de faire ça, mais ça prend des ressources financières. Et quand des organismes, c'est toujours des organismes à but non lucratif qui déjà d'avance ne roulent pas sur l'or, donc tout est lié, là.
Ouais. En tout cas, c'est un dossier qu'on va essayer de continuer à suivre, particulièrement ceux qui ont annoncé une fermeture estivale. Est-ce qu'ils vont quand même essayer d'offrir un palliatif
Édulcoré? Ça change d'une semaine à l'autre.
Oui, c'est ça.
Ça change d'une semaine à l'autre.
Oui, tout à fait. SQPH la semaine prochaine, je ne sais pas. On verra, Dominique, si on se parle ou pas. Là, mais on reste en contact, Dominique Tremblay. C'est la
bonne
petite pause. Ensuite, Christiane vient nous raconter je sais pas quoi. Je n'y ai pas posé la question, mais je sais qu'elle sera là.
Vous écoutez Accès libre.
Avec à la technique, Jean-Sébastien Laliberté, Christiane Compagna se joint à moi. Madame Christiane, salutations.
Bonjour.
Tu nous parles de quoi aujourd'hui? J'aurais dû te le demander avant d'entrer en onde.
Oh, on aurait pu, mais bon, ouais. On se fait surprise.
On a parlé du Camp Papillon à la place.
Oui, c'est ça. En fait, c'est plusieurs petites nouvelles. Tout d'abord, je suis beaucoup en technologie, en fait. Tout d'abord, le site The Verge qui annonce que Google Maps va rendre les informations sur l'accessibilité en fauteuil roulant plus visibles dans son application.
Ah, OK.
Donc, ils ont récemment lancé un nouveau mode qui s'appelle Accessible Places. Je ne sais pas si le titre français sera Place accessible, comme me disait Google Translate, s'il suffit sur leur propre application pour traduire les noms de leurs applications.
Mais ce serait pas mauvais, Places accessibles?
Ça pourrait aller.
Ah, ouais.
Donc, une fois le mode activé, ça affiche de manière plus visible les informations sur l'accessibilité en fauteuil roulant. La fonction va se déployer progressivement pour Android et pour iOS.
Mais est-ce qu'on sait comment définit-on plus visible? Est-ce que c'est simplement que la photo sera plus claire, qu'il y aura plus de pictogrammes?
Ce qu'on dit, c'est que lorsque on aura activé ce mode-là dans l'application, un icône de fauteuil roulant va indiquer une entrée accessible et on pourra aussi voir si un lieu dispose de sièges, de toilettes ou de parking accessible. S'il est confirmé qu'un lieu n'est pas accessible, ils vont également l'afficher. Pour les informations, ils sont allés à la fois en crowdsourcing en faisant appel aux usagers, aux personnes en situation de handicap.
Google est allé en crowdsourcing.
Oui. Pas en sociofinancement, en crowdsourcing.
OK. Quelle est la différence?
crowdsourcing, c'est pas le financement, c'est l'information qu'on va chercher dans la population.
OK, OK, OK. Phew. Là, je trouvais que c'était exagéré.
Non, non. Les gens confondent souvent deux. Je me souviens plus du mot anglais pour socio-financement, là, mais crowdsourcing, c'est vraiment quand on va chercher des connaissances.
Okay.
Et puis, mais aussi on se fie aussi sur les informations que les propriétaires mettent dans leur description dans Google Business. Donc, c'est ces informations croisées donc qui vont nourrir l'application.
Ben, on est d'accord.
Parfait. Le magazine Slate, lui, nous rappelle que à un moment où toute une partie de notre vie, de notre quotidien a migré vers le virtuel, mais que le manque d'accessibilité du web largue les personnes qui ont un handicap visuel ou un handicap auditif quand il s'agit de vidéoconférences, beaucoup. Le problème affecte notamment la consultation de spécialistes en ligne, des médecins, des psychologues, des achats en ligne, bien évidemment. L'éducation à distance pose problème de ce côté-là, notamment pour les personnes qui ont, pour les personnes qui ont un handicap visuel et pour les personnes qui ont un handicap auditif, parce que souvent, il n'y a pas d'interprétation. Et les demandes aussi pour obtenir de l'aide gouvernementale, c'est un article américain, mais c'est vrai aussi ici,
bien
si
sûr.
La plateforme n'est pas accessible, c'est plus difficile d'obtenir de l'aide. Puis on souligne aussi que l'accessibilité au sens plus large, c'est-à-dire les personnes en situation de handicap qui sont plus souvent en situation économique précaire vont avoir tout simplement un problème d'accès à Internet, faute d'avoir un ordinateur pour des raisons économiques, des questions générationnelles aussi, d'être un peu moins techno, des questions de littératie numérique et de littératie tout court aussi qui est nécessaire pour utiliser ces applications.
OK.
Une bonne nouvelle, le lancement d'une machine à laver, d'une machine à laver pour les personnes qui ont un handicap visuel.
OK.
C'est une machine spécialement
couleur
conçue.
Blanc, pâle, foncé?
Elle a été lancée par la société d'appareils électroménagers Miele. J'ai cherché pour savoir comment ça se prononce, parce que ça s'écrit M-I-E-L-E. C'est une
technologie... Oui, M-I-E-L-E, et tu as trouvé que c'était Miele. Bravo, Mme Campagnard.
Ben, il y a tout ça sur YouTube,
okay.
Dieu merci.
Okay.
Je remercie le dieu d'Internet. C'est une technologie qui a été développée par la Royal National Institute of Blind People en Grande-Bretagne, et la compagnie a repris cette technologie-là développée par l'organisme. Les caractéristiques, donc, comprennent des marquages tactiles, des capteurs tactiles, des indicateurs acoustiques, ainsi qu'un manuel d'utilisation audio en format DAISY.
Les indicateurs quoi? Acoustiques?
Oui, ben là, c'est peut-être... je suis peut-être pas revenue sur la traduction pour cette phrase-là. D'habitude, je les revise.
mais donc, ça a l'air de quoi?
Okay.
C'est comme s'il y avait du braille sur la machine...
Pardon?
C'est comme s'il y avait du braille ou du relief sur la machine à laver.
Un relief ainsi que des indications audio.
OK. OK.
Et un livre d'instructions
audio
qui viendra sur une clé USB avec la machine.
Est-ce qu'on a une idée du prix? Est-ce que parce que
non,
c'est...
Non, j'ai pas trouvé ça.
OK.
Ça ne doit pas être tout à fait commercialisé encore.
Donc, ça pourrait être trois fois le prix d'une machine à laver ordinaire. En tout cas,
dans un premier temps, particulièrement. Mais j'ai l'impression que c'est déjà une marque assez luxueuse.
Miele.
Ouais.
Miele. OK. Okay. Mais en tout cas, bravo pour l'initiative.
Ben c'est ça. Ben ouais. C'est un bel exemple de les organismes ou le milieu universitaire développent des technologies, puis ensuite, une compagnie les reprend pour commercialiser.
Mm-hmm.
Finalement,
petite
il y a
dernière.
Microsoft... Oui?
Petite dernière.
Ouais, ben Microsoft ajoute des mises à jour d'accessibilité de Windows 10 plus tard ce mois-ci, notamment pour changer la taille du curseur, personnaliser sa couleur... aussi un indicateur de texte, des ajustements associés à la loupe.
Ah.
Aussi, l'application Narrator va avoir des mises à jour importantes. On dit que ça va réduire le nombre de pauses qu'elle fait pendant la lecture, qu'elle va faire un meilleur travail de prononciation des mots et qu'elle commencera désormais automatiquement la lecture depuis le haut de la page.
Pour plusieurs, Narrator est encore le dernier en termes de qualité de synthèse vocale, mais tranquillement, elle commence à rattraper le peloton. Alors, on souligne, puis tant mieux, autant pour les semi-voyants que pour les personnes en cécité totale. Là, ça ne peut pas nuire tout ce que tu viens d'informer là. D'ici fin mai?
Oui, normalement, oui.
OK. OK. Ben, merci beaucoup, Mme Campagnard. On parle à Annick Larose dans deux minutes. Thank you. C'était quoi ça, Jean-Sébastien? Tu vas me dire que c'est un pont musical, là? Mais c'est quoi? C'est-tu du Eric Satie?
C'est exactement ça, en version 8-bit. C'est interprété par Anamana Gucci, mais c'est Gymnopédie numéro 1, mais faite avec des Game Boy.
Je suis vraiment pas certain. Vraiment pas certain.
On n'est pas de la même époque, tous
mais,
les deux.
Mais justement, dans un spa, ça me ferait sourire. Bon, dans le plus sérieux et vraiment plus complexe, moi, je l'ignorais. Je savais qu'on en parlait, mais j'ignorais qu'il existait un protocole national de triage qui déterminera quels patients auront droit à un respirateur si les soins intensifs des hôpitaux débordent durant la pandémie. Bon, évidemment, s'il ne s'agissait que de moi, notre prochain invité serait tout en haut de la liste. Annick Larose, vous êtes directrice de la Société québécoise de la déficience intellectuelle et vous êtes saluée. Comment allez-vous?
Bon, ça va très bien, je vous remercie. Merci de l'invitation.
Bon, petite question, donc tannante un peu, mais selon un texte dans Le Devoir, la Société québécoise de la déficience intellectuelle, ben, vous avez mis la main sur le protocole en question, document que l'on dit confidentiel. Le Devoir était content de dire dans l'article que lui aussi a mis la main sur le dit document. Qui a donné le document à qui? Là? C'est vous qui l'avez donné au Devoir ou le Devoir qui vous l'a donné?
Ben non, le Devoir est capable de faire les démarches par elle-même, par eux-mêmes. Donc voilà, donc on a réussi à... on savait que ça s'en venait. Pour nous, c'était important qu'on puisse en parler et puis surtout qu'on puisse informer la population de ce travail-là qui est fait, puis des préoccupations aussi pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle, mais également pour l'ensemble des personnes qui sont en situation de handicap. Là. C'est pas uniquement pour la déficience intellectuelle notre inquiétude. Ouais.
Alors, parlons-en de ces craintes pour les personnes en situation de handicap que vous avez rendues publiques la semaine dernière.
Ben, faut d'abord dire que, en tout cas, selon ce qu'on comprend, le protocole n'est pas encore utilisé, dans le sens qu'on n'a pas atteint un taux de saturation là, du système, mais on le sait, là, avec le déconfinement, là, on est toujours un petit peu craintif par rapport à ça. Et c'est également un protocole de triage qui touche les soins intensifs, mais pas uniquement pour les patients qui sont atteints de COVID-19, mais pour ceux qui auraient besoin de soins en soins intensifs. Donc, okay. C'est plus large que les patients qui sont atteints de COVID-19. Mm-hmm. Notre préoccupation, c'est vraiment qu'on voit là-dedans les critères. Il y a 12 critères qui font en sorte que si vous avez un de ces 12 critères-là, bien, d'emblée, vous n'allez pas en comité. Là. Il y a déjà un triage qui est fait, donc vous n'avez pas accès aux soins intensifs. Et dans ces 12 critères-là, il y en a 3 qui sont susceptibles de toucher et qui sont, à notre avis, discriminatoires envers les personnes qui ont sont en situation de handicap, au niveau de la déficience cognitive sévère, donc l'incapacité totale d'effectuer des activités de la vie quotidienne et domestique de manière indépendante. Donc là, comment ça va être interprété, cette histoire-là? C'est ça qu'on a des inquiétudes. Également, un autre critère...
Mais Annick, oui? Dans le texte, je lisais là Joseph Hanin, qui est un médecin là, qui participe à l'élaboration justement du protocole de triage, disait qu'on ne fait référence qu'à l'octroi d'un respirateur et non, il n'est pas question de ne pas avoir de lit ou de soins intensifs, mais uniquement du respirateur, c'est la même...
Ben c'est parce qu'on sait que dans certaines situations, moi je suis pas médecin, mais ce que j'en comprends, c'est que dans certaines situations, le respirateur, c'est ça qui détermine si la personne va être capable de passer à travers ou non. Donc c'est là vraiment notre
inquiétude.
Mais
je voulais
inquiétude.
Quand même préciser là. Ok, d'accord.
Ouais. Et la même chose au niveau de la capacité, un des critères, la capacité fonctionnelle en fonction du score de fragilité clinique. Donc ça c'est un outil de mesure qui a été conçu plus pour des profils gérontologiques là, mais disons concrètement là, si on veut que qu'on comprenne bien la situation. Bon, par exemple une personne qui a une prise trisomie 21 puis qu'il y a des difficultés à s'exprimer, puis en même temps qu'il y a une déficience motrice, ben va avoir un score de fragilité très élevé. Donc puis ça donc va être exclu, mais ça reflète pas nécessairement son état de santé qui peut être pas nécessairement précaire. Donc d'emblée, ça nous apparaît discriminatoire. La même chose au niveau, ça peut s'appliquer également à l'autisme, mais également donc une personne qui a de la difficulté à vaquer à ses occupations avant d'avoir été atteint. Ouais. Ben, est-ce qu'on va lui offrir des outils ou en tout cas la possibilité, l'accommodement nécessaire pour pouvoir sortir de justement des soins intensifs. Donc, on sait que les patients vont avoir besoin d'une réadaptation plus importante, mais c'est pas parce que d'emblée, avant même d'être malade, la personne avait justement ces difficultés-là que d'emblée devrait être exclue des possibilités d'avoir des chances de survivre à la COVID ou à d'autres situations qui l'amènent.
De lire intensifs. Que les personnes atteintes du trouble du spectre de l'autisme ou de la déficience intellectuelle ne font pas partie des critères d'exclusion, c'est rassurant ou pas?
Ben c'est par la bande, est-ce que le regard qu'on va porter sur eux, on le sait, hein, que les personnes handicapées, je vous apprends rien, qu'historiquement, ils ont été marginalisés et discriminés. Donc, quand on regarde au niveau justement de ce score de fragilité-là, si d'emblée une personne, on considère qu'elle n'a pas que son score est élevé, mais que sa santé pourrait lui permettre de sortir de ce faux pas-là, est-ce que d'emblée de l'exclure puis de pas lui donner justement tout ce qu'il faut comme la population en général, ça nous apparaît discriminatoire.
Mais ce que j'entends,
c'est basé sur son handicap.
Bon, évidemment, si on manque de respirateurs, si on manquait de respirateurs et qu'il y a un choix à faire, il faut discriminer. Ça, c'est obligatoire. Maintenant, lui et le comité disent la maladie de Parkinson ou la SLA, seuls ceux qui sont en stade avancé de la maladie ne pourraient bénéficier d'un respirateur. Moi, ce que j'entends, Annick, c'est que vous dites il y a des choses que l'on dit publiquement, mais on a peur que sur le terrain, on réagisse différemment.
Qu'on le sait historiquement, on le sait qu'il y a un regard porté par rapport à la personne en situation de handicap, par rapport à sa capacité. Historiquement, on a toujours eu ces craintes-là. Je vois pas pourquoi que ça partirait du jour au lendemain. Donc, et puis le fait que ça se fasse de manière presque cachée, sans nécessairement avoir de retour là, par rapport aux personnes elles-mêmes qui sont impliquées. Là. Donc, c'est un peu ça qu'on demande, nous, dans nos recommandations, que ces critères-là qui sont basés plus sur le handicap, ben qu'ils soient retirés, puis que les personnes handicapées ou leurs représentants puissent participer justement à la révision de ce protocole-là, puis qu'il y ait davantage de transparence dans ce processus de triage-là.
Sait-on si ailleurs dans le monde, des personnes handicapées ont été lésées par ce genre de protocole?
Ben en Ontario, il y a eu vraiment une levée de boucliers qui a été faite par justement les groupes des personnes handicapées. La même chose aux États-Unis. En Europe également. Donc, je pense que c'est notre devoir de représentants de ces personnes-là et de défense de droit de lever le tableau, de lever le drapeau puis de dire, faites attention, il faut s'assurer que ça soit fait.
Envisage-t-on d'entreprendre des démarches juridiques?
Bien, on n'exclut rien, mais c'est sûr que pour l'instant, nous, on demande une plus grande transparence. Ouais. Puis la première chose, c'est que la population soit au fait de ça, parce que pour plusieurs personnes à qui je parle disent, mon Dieu, on n'était pas conscient de ça. Donc, je pense qu'il faut conscientiser les gens, c'est la première chose, puis demander au gouvernement de modifier, puis de s'assurer. C'est surtout que faut les gens comprennent bien, c'est que si vous avez un de ces critères-là, d'emblée, vous vous rendez même pas au comité qui va éplucher plus largement. Donc, c'est vraiment le premier regard et puis après ça, vous êtes discriminé. Donc, c'est là-dessus là, qu'on veut. On veut s'assurer que ça soit fait correctement puis qu'encore une fois, les préjugés ou les a priori qu'on connaît là, du monde médical sur la personne en situation de handicap, qu'elle puisse être le plus loin possible. Là.
Merci beaucoup, Annick Larose.
Ça me fait plaisir. Bonne journée.
Sylvain Cossette, qui me ramène en enfance. Version qui a du mordant que celle de Sylvain Cossette, Brother Louie, sur 70s, volume 3. Jean-Sébastien, il a arrêté à combien? Le sais-tu?
Ce que je vois, c'est une compilation 1, 2, 3. Je pense qu'il a arrêté à 3.
OK. Parce qu'à un moment donné, il reste plus de tonnes. Là. Il était rendu à Gilles Valiquette là, sur le volume 4. Catherine Desrosiers, bonjour.
Bonjour.
Avez-vous connu Brother Louie, vous? Vous êtes plus jeune, puis vous n'avez pas vécu ce temps-là?
Je ne crois pas l'avoir vécu, là.
OK. Catherine, qui est directrice générale de l'association Emmanuel, on parle d'adoption. Pourquoi un organisme qui s'intéresse particulièrement, sinon uniquement, à l'enfant en situation de handicap?
Oui, bien, en fait, c'est que c'est une forme d'adoption, je dirais, qui requiert quand même une certaine expertise auquel on se consacre depuis une trentaine d'années déjà. En fait, c'est que comme tout parent hein, qui met au monde un enfant avec un handicap ou qui connaît des défis particuliers, on a envie, je pense, d'avoir des gens autour de nous qui peuvent avoir un savoir pour nous aider. Et puis, c'est un petit peu la même chose en adoption. Déjà, adopter un enfant, c'est une forme de paternité ou de maternité un peu différente. Mais quand on y ajoute des défis, bien, à ce moment-là, on a envie d'avoir des gens qui ont justement cette connaissance-là pour nous aider dans notre parcours.
Mais j'oserais penser que si j'adopte un enfant en situation de handicap, c'est que je suis déjà soit confortable, connaissant, familier avec le type de quotidien que cet enfant-là serait appelé à vivre, non?
Bien, d'une certaine façon, vous avez raison. C'est certain, quand on fait ce choix-là, ben on s'y est préparé. Ouais, ouais. On s'y est préparé, on s'est documenté, etc. Mais dans notre réalité à nous, à l'Association Emmanuel, la grande majorité des des adoptions pour lesquelles là, on est interpellé, c'est des enfants pour lesquels on ne sait pas exactement quels seront les besoins futurs.
Ah,
hein? C'est des nouveaux-nés, des tout jeunes pas. Puis on parle tout le temps de facteurs de risque ou de beaucoup de peut-être. Mais la vraie situation, ben on le connaît avec l'enfant au fil du temps qui passe.
Vous assistez un parent combien de temps? Pendant la vie de l'enfant? Pendant les deux premières années?
Bien, en fait, nous, on est un organisme sans but lucratif auquel les gens adhèrent. Certains pour effectivement toujours, toute la vie. Certains pour une certaine période. C'est libre à eux. Hein? C'est comme tout organisme qui dessert les gens comme on le fait. Bien, en fait, nous, on offre des services aux familles, mais je travaille aussi beaucoup en lien avec les services sociaux, les CIUSSS de la province, là, qui ont, eux, ce mandat-là de s'occuper de l'adoption au Québec.
Donc, oui, c'est ça. Il faut préciser qu'on ne parle pas ici d'adoption internationale, mais bel et bien d'adoption québécoise.
Tout à fait. Ouais. Tout à fait, effectivement. Puis, on parle pas non plus d'adoption privée. Là. On est vraiment un organisme qui favorise, qui travaille en partenariat, en collaboration, mais on ne remplace pas d'aucune façon le travail là, qui est fait par nos CIUSSS là, qui, eux, doivent faire, par exemple, les évaluations psychosociales et tout l'aspect plus légal et formel de l'adoption.
Donc, c'est quoi? Ce sont les CIUSSS ou les CLSC ou qui dirigent les parents ou les enfants? Bon, si c'est la DPJ, peut-être que les parents viendront même pas. C'est uniquement l'enfant qui... Comment ça fonctionne, en fait, Catherine?
Oui, bien sûr. On va démêler ça plus simplement possible. Hein? En fait, c'est dans le langage là, que les gens connaissent, c'est effectivement les DPJ là, qui doivent s'occuper des enfants pour lesquels on cherche des familles. Il y a parfois, ce sont des enfants qui sont nés, par exemple, là, je vais donner un exemple très, très facile à comprendre. Si demain matin, j'ai des gens qui mettent au monde un enfant trisomique 21, par exemple, et pour toutes sortes de raisons, se sentent...
mal équipés, là, pour...
Oui, puis pense que ça va être mieux de le confier à une famille adoptive. À ce moment-là, ça va être ce qu'on appelle une adoption régulière. Moi, je peux aider ces gens-là, ces parents-là, dans leur cheminement, dans leur prise de décision. Et puis, en collaboration avec la DPJ, qui, eux, doivent prendre ce qu'on appelle le consentement à l'adoption et tout ça. Puis, assez rapidement, là, on se dirige dans une adoption régulière.
Donc, vous assistez les familles qui doivent se séparer de leur enfant, mais qui choisissent, et les familles qui vont recevoir les enfants. Donc, vous êtes bidimensionnel.
Bien, tout à fait. Okay. En fait, c'est toujours sur une base volontaire.
Bien sûr.
Hein? Nous, moi, mes services sont là pour ceux qui en ont besoin. Il y en a qui n'en auront pas besoin, puis il y en a d'autres qui vont me parler une fois ou deux au téléphone, ça va être suffisant. Puis il y en a d'autres que je vais rencontrer pendant plusieurs semaines. Donc, c'est vraiment à la pièce, selon les besoins des gens, selon la situation. Et puis, on est vraiment complémentaire à ce qui peut être fait là, par les autres instances là, qui, eux, font leur partie à eux.
Est-ce que vous desservez certaines régions ou le Québec dans son entièreté?
Oui, le Québec, nous, on est provincial. Oui.
Est-ce que vous avez différents chapitres ou c'est le téléphone et Zoom qui vous aident à vous rendre en Abitibi?
Bien, voilà pas longtemps, c'était la voiture, mais je vous dirais que présentement, on est beaucoup, pas comme tout le monde, là, en télétravail. Ouais. Hein? Fait que oui.
En 30 ans, est-ce que la situation a sûrement changé un peu, la courbe? Est-ce que les parents gardent davantage leurs enfants? Est-ce que, au contraire, que ce soit l'interruption de grossesse? Ou comment la situation a évolué en termes de disponibilité d'enfants?
Moi, je ne peux me baser que sur mes propres statistiques. Hein. Je n'ai pas le mandat de faire des recherches là, qui pourraient vous donner un portrait plus juste. Mais nous, ce qu'on voit dans notre réalité à nous, à l'association, c'est relativement stable au niveau des demandes et tout ça. Par contre, je dirais que depuis 2 ans, on a une très forte croissance au niveau des demandes qui nous sont faites par les DPJ pour des enfants. Là, on est vraiment dans autre chose que ce que je vous parlais tout à l'heure, là, les consentements à l'adoption, mais on est vraiment plus dans un volet enfants qui sont retirés là, pour des facteurs de risque ou de la négligence. Et là, on en a des demandes.
Ah oui. Et là, on parle de famille d'accueil, finalement.
On parle de famille d'accueil en vue de l'adoption.
OK, OK.
Vraiment, on veut vraiment un vrai projet de vie pour ces enfants-là, autant que possible. Ouais.
Intéressant. Catherine Desrosiers, qui est directrice générale de l'association Emmanuel. Merci beaucoup, Catherine.
Mais ça me fait plaisir.
Et c'est ainsi que se clôt le mois de mai 2020 pour Accès libre. La semaine prochaine, je ne sais pas ce qu'on va faire, Christiane et moi. Est-ce que la semaine québécoise des personnes handicapées est si importante qu'on doit y faire référence, étant donné que pour nous, c'est à l'année qu'on parle de handicap? On verra bien. On va s'asseoir puis on va jaser tout ça. Monsieur La Liberté, merci beaucoup. À vous, je vous souhaite une bonne semaine. Bye-bye.